numéroté avec toutes vos séries préférées. Les Misérables, Nicky Larson, Dragon Ball Z, Ranma 1/2, Jetman et Salut les Musclés. On retrouve maintenant tous vos animateurs préférés, Ariane, Jackie, Patrick, Corbier et Dorothée.
Bonjour à tous et bienvenue sur Istasia.fr pour notre podcast numéro 16. Un podcast qui sent bon les grandes vacances et le goûter devant la télé des années 80 et 90, puisque nous allons parler des animés de notre enfance dans une première partie, avant d'évoquer un peu plus tard, juste en dessous, les sorties cinéma de l'été. Pour débattre de la nostalgie provoquée par ces souvenirs, j'ai le plaisir d'accueillir Alex de Cinéasie. Salut Alex.
Salut à tous.
Sidi de Ceci dit au Bamou.
Comment vas-tu, Sidi ? Coucou, ça va très bien, même si la France a perdu.
La France a quoi ?
La France a perdu, je la coupe
pas au courant. Justin, d'à peu près tous les sites sur le cinéma, sur la toile, mais notamment d'Istasia, et des chroniques du cinéphile staccanoviste.
Salut !
Et enfin, Elvire. Bonjour Elvire.
Salut à tous.
Donc, comme je l'ai dit, nous allons avoir un débat assez ouvert sur les dessins animés qui ont marqué notre enfance, notre adolescence, voire un petit peu plus tard, et analyser un peu les répercussions que ça peut avoir sur notre cinéphilie. Je voulais faire tout d'abord un premier tour de table. Si je vous dis dessin animé et enfance, qu'est-ce qui vous vient tout de suite comme premier souvenir, comme première impression ? Sidi, si tu veux commencer.
Moi, je dirais identification. Il faut dire les choses comme elles sont. Mes premières amours, ce sont les filles aux grands yeux que je voyais dans les dessins animés avec leurs cheveux bleus et rouges et roses.
Donc tu t'identifiais aux filles aux
non,
grands yeux.
Non, j'enviais les Mathias et les Tristan de finalement finir par cueillir les Candy et autres Lucille. Et puis je m'identifiais aussi aux héros des Chevaliers de Zodiac. Je ne comprenais pas pourquoi je ne pouvais pas me balader à mon tour avec une armure. Une armure aux couleurs bleues et rouges. Enfin voilà, je me suis un peu formé en tant qu'enfant comme potentiel conquérant de filles aux grands yeux et en armure. Quoi. Voilà. Et puis, voilà, quoi, y a la réalité qui fait ensuite son travail.
Voilà. Si tu veux des filles aux cheveux bleus et roses,
il y en a
la Japan Expo
en ce moment.
J'en reviens. Pour les grands yeux, je ne sais pas. Ouais. Mais en tout cas, elles ont des cheveux roses et bleus. Ça devrait pouvoir le faire. En plus, si tu viens en armure, je pense que tu en
as. Oui, alors là, pour le coup.
Les cosplayers ont la côte là-bas, donc voilà. En même temps, il y a de la concurrence. Hein.
J'ai malheureusement fait mon deuil de cette époque.
Alex, toi, ça serait quoi le premier souvenir, sensation, la première émotion que t'évoques dessin animé en France?
Le premier souvenir, c'est Sport Billy. Alors en fait, c'était fantastique car Sport Billy, en fait, il avait un sac de sport et il pouvait sortir ce qu'il voulait de son sac de sport. Des buts de foot, ce genre de choses, c'était exceptionnel. Et alors, j'ai revu la série il n'y a pas longtemps et il faut savoir que c'était sans doute la série la plus mal dessinée du monde. Et c'est vraiment une catastrophe en fait. Il y a un tel décalage quand tu regardes ça quand t'es petit, tu trouves ça fantastique, tu trouves ça merveilleux, et tu te rends compte qu'au final, le truc, comme beaucoup de séries des années 80, ont été faites vraiment à la veille. Enfin, c'est une catastrophe quoi. C'est vraiment très très mal dessiné. C'est limite, il y en a certaines, c'est limite des cartoons. C'est vraiment. Voilà.
Je pense qu'on va revenir sur cette thématique justement. Comment on peut revoir maintenant ces dessins animés sans avoir cette nostalgie? Justin, dessin animé enfance.
Alors, c'est un peu. Alors, le premier souvenir, ça serait quand même Cobra. Je me souviens à l'époque Récré à deux. Puis c'est vraiment ce genre de héros, côté évasion, avec une grande aventure. Des héros comme Cobra, les Chevaliers du Zodiac, où ça ramenait vraiment dans un autre monde, dans un ailleurs, c'était vraiment j'y avais des combats, enfin côté épique, évasion, premier souvenir qui vient, un peu sensation de l'aventure quoi.
Et toi Elvire?
Mes premiers souvenirs ils sont pas forcément très positifs puisque c'était mes frères qui me forçaient à regarder dessins animés pour garçons, mais après coup j'en garde de très très bons souvenirs. Et après je me suis forcément mis au dessin animé pour filles, notamment Sailor Moon, que j'ai adoré plus que tout, que je n'ai jamais revu par la suite, heureusement.
C'est sorti ou ça va ressortir, je crois.
C'est disponible en DVD.
Ouais, mais je pense que c'est bien que ça reste loin.
Et une nouvelle série.
Ça reste un bon souvenir.
Et prévu un remake de la première saison de Sailor Moon en 26 épisodes et produite actuellement.
On en parle. 3D.
Il y a même un film live.
Et
y a
un film live, tout à fait. Mais ça reste, oui, plutôt des souvenirs de. de moments passés avec la famille plus que des moments précis, des souvenirs précis de dessins animés.
Et donc tes frères ne regardaient pas par contre de dessins animés pour filles alors ? Ils étaient uniquement
sur... Ah non, ils partaient après.
Donc ils regardaient ils pas Juliette Je
T'aime. Juliette Je T'aime, si. Si Juliette Je T'aime, si. Mais Princesse Sarah, non. Ça, non, c'était que pour moi.
Ok, quant à moi, c'est plutôt le terme exceptionnel qui me vient en tête, parce que mes parents, et ça aussi on reviendra là-dessus, m'interdisaient de regarder le Club Dorothée. Donc soit je le regardais en cachette le mercredi après-midi quand je pouvais, soit c'était La Libération chez mes grands-parents qui habitent dans le sud-ouest à côté de la plage, et je passais mon temps à regarder le Club Dorothée pendant toutes les vacances parce qu'il y avait pas mal d'épisodes de Dragon Ball,
je rattrapais le retard
qui est passé pendant toutes les vacances.
Il ne se passait pas grand-chose en 10 épisodes, quelque part.
Tu n'allais pas à la plage en fait.
Je refusais pratiquement d'aller à la plage pour rester, j'y allais.
Il
y avait les pauses du Club Dorothée. Donc avant d'évoquer toutes ces thématiques qui ont été lancées, nous allons faire un petit récapitulatif historique de l'arrivée de l'animation en France. La première grande vague a lieu à la fin des années 70, la seconde à la fin des années 80 avec le Club Dorothée. La première vague, c'était Recréa 2, qui est arrivé en 78, avec tout d'abord Albator, puis Goldorak, ou Goldorak et Albator ensuite. Il y avait aussi Candy, Cobra, Lady Oscar... Et la chose intéressante, c'est que Recréa 2 a commencé à lancer des coproductions avec les Mystérieuses Cités d'Or. Clémentine, que j'ai vu par la suite,
Ulysse qui est restée
assez culte. Ulysse 31, Les Mondes Engloutis. Et a commencé aussi à passer les premiers tokusatsu en France, dont Ixor et Sankukai, qui sont restés cultes pour toute une génération de trentenaires et de quarantenaires. Alors là, je m'adresse plutôt à ceux qui étaient en âge à l'époque de regarder Recréa 2. Quels souvenirs vous gardez de cette première apparition des mangas et des animés en France ? Peut-être Alex ?
Alors, moi, bien sûr, je n'étais pas né à cette époque, comme tout le monde le sait. Mais pour Recréa 2, non, moi, je... Alors, assez bizarrement, parce que je sais que je le regardais tout le temps, parce que mes parents me disaient d'arrêter de le regarder. Mais je garde pas un grand souvenir. J'ai plus de souvenirs du Club Dorothée, sincèrement, que de Recréa 2, même si je me souviens très bien de Recréa 2, de Dorothée, enfin Dorothée qui à l'époque était sur Recréa 2, tout ça. Mais vraiment, mes premiers souvenirs sont plus mélangés, Club Dorothée et Youpi, l'école est finie en fait. C'était à peu près globalement, à un moment ça s'est croisé, genre, je sais plus exactement quand. Mais c'est vrai que mes grands souvenirs de dessins animés sont sur cette période-là. Et, voilà.
Et tu disais que tu étais allé sur le tournage d'un Recréa 2 tout à l'heure. Tu peux nous raconter ça.
Ouais, non, quand j'étais gamin, en fait, j'ai pu assister au tournage d'un Recréa 2 qui était à l'époque donc fermé au public, puisque s'il n'y avait pas de. Autant si au Club Dorothée, il y avait tous les enfants et tout le monde se battait pour aller au Club Dorothée parce qu'on avait des cadeaux. Là, pour le coup, c'était fermé au public et effectivement, j'avais réussi à assister au tournage de Recréa 2 et j'étais très content et de voir Dorothée limite c'était une déesse vivante, ce genre de choses. Je me souviens avec mes petits yeux émerveillés d'avoir vu Dorothée, d'avoir vu Cabu qui m'avait fait un dessin dédicacé de Dorothée avec son long nez pointu. Voilà, donc très bon souvenir de Recréa 2.
Donc ça, c'est les 10 premières années de l'arrivée donc des dessins animés, de toute cette animation japonaise en France. En 87, Dorothée quitte Antenne 2 pour TF1 et elle crée le Club Dorothée. Alors là, je crois que ça a duré pendant près de
10 ans.
Donc je crois que tout le monde a des souvenirs très précis. Tout le monde a dû fêter son anniversaire, appartenir au Club Dorothée.
Absolument pas. Mais... anniversaire, à la fin du générique, tu avais tous les membres du Club Dorothée, Club Dorothée, bref. Où tu avais ton prénom qui défilait et tu avais bon anniversaire à. Et alors c'était en accéléré parce que tu avais l'impression qu'il y avait tous les enfants de France qui étaient inscrits au Club Dorothée. Où tu avais.
J'étais pas inscrite, moi.
Voilà.
Et donc tu étais comme ça, quand c'était inscrite.
Comme
ça,
tu
suivais du doigt tout le monde.
Voilà quoi. Et tout le monde se rappelle du générique, hein, bien sûr.
On t'écoute.
Je connais les paroles, j'ai évité de chanter, mais c'était joyeux anniversaire, tous nos voeux sont sincères. Pour ton anniversaire, là, 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 là. Quelque chose de très post-Jacques Demy. Voilà.
Le rapport avec la cinéphilie commence.
Exactement, je fais la connexion, histoire de recentrer.
Donc, Sidi, Justin, Elvire, est-ce que c'est là aussi que d'où naissent vos premiers vraiment souvenirs de dessins animés japonais? Donc au Club Dorothée.
Moi, ça avait déjà commencé avec Récréa 2 quand même. J'ai le souvenir, il y avait Cobra qui passait sur. Surtout que ça a quasiment été très peu rediffusé par la suite Cobra. Du coup, ça restait quand même bien en tête, vu que c'était quand même une série. Même à la revoyure, c'est encore très bien, mais ça, c'était un souvenir qui était resté bien vivace, parce que c'était marquant. Au moment où c'est passé, c'était très peu rediffusé. Il y avait XOR aussi, effectivement. Donc, premier un peu su. Comment ça s'appelle ? Sentai, ça, Super Sentai. Tokatsu.
Tokusatsu,
ouais. Et donc c'était ça, ouais. C'était la première fois que j'ai vu un sabre laser. C'était pas Star Wars, c'était XOR.
Mais en fait, moi, mon problème avec XOR, c'est que moi j'adorais, j'étais un fan inconditionnel comme tous les petits garçons de XOR. Et je me souviens, ma tante qui me disait, mais de toute façon, ton personnage, qui n'a pas beaucoup de décalage d'âge, et qui me disait, mais de toute façon, ton personnage il est dégueulasse, il s'habille toujours pareil. Et vous remarquerez si jamais vous voyez maintenant un épisode d'XOR, c'est qu'effectivement,
la petite veste
en cuir. Il avait juste une courte veste en cuir rouge. Et je sais plus, et c'est tout en fait.
Il était tel blanc, voilà, des bottes.
Il était habillé tout le temps pareil, quelle que soit la saison, quelle que soit, tout allait bien. Il était habillé tout le temps. Bon, sauf bien sûr quand c'était le shérif de l'espace, là il avait la classe. Mais sinon, dans la vraie vie, il avait sa veste dégueulasse. Et il faut savoir que l'acteur de XOR est une vraie légende au Japon et tourne encore. Dans certains films,
il a joué dans Kill Bill.
D'accord. Il ne s'est pas changé depuis 30 ans.
Dans le, je crois que c'est dans le volume 2 de Kill Bill, il joue dedans. C'est l'assistant du maître qui d'ici un peu Uma Thurman. Il joue dedans. On peut le reconnaître si on se souvient à peu près du.
Je me rappelle d'un gars très qui sourit jamais.
Enfin, oui, non, mais.
Il y a un moment où t'es le shérif de
l'espace. C'est Kenji Oba, je crois.
T'as de la pression.
Kenji
Oba. Et tu peux pas, quoi.
Tu fronces les sourcils.
Tu peux pas sourire.
Alors, c'est vrai, et même, y compris dans les dessins animés, d'ailleurs, les personnages. Alors, pour une série live, je n'ai pas d'explication sur la manière dont ils s'habillent, mais c'est vrai que dans les dessins animés, les personnages sont souvent habillés d'une manière récurrente.
C'est vrai, Mickey Larson était tout le temps habillé pareil.
Les Chevaliers de Zodiac, quand ils ont pas leur armure, c'est toujours la même chose. Alors, je pense que c'est à la fois pour avoir une identification immédiate de l'enfant spectateur qui reconnaît à des attributs immédiats. Le personnage, et aussi pour les animateurs, le fait d'avoir à dessiner exactement de la même façon et à la chaîne les mêmes personnages qui sont dans des positions, qui peuvent reprendre des graphismes d'un épisode sur l'autre sans avoir de faux raccords.
Après, c'est peut-être un petit look de l'époque qui faisait un petit peu cool, parce que si on regarde genre K2000, Michael Knight, il a toujours sa petite veste en cuir aussi, c'est peut-être une espèce d'allure de héros, peut-être une espèce de dégaine du héros typique un peu des années 80, son petit veste en cuir.
Tu peux pas être héros et fashion victime, quoi. Il y a un moment, il faut choisir entre sauver le monde et faire les boutiques.
Un peu fashion
donc,
victime, Michael.
Voilà, Tintin peut en dire quelque chose.
Et de manière amusante, Wes Anderson a un peu repris ça d'ailleurs dans son cinéma, où on remarque que souvent, notamment dans la famille Tenenbaum, les personnages sont toujours habillés de la même manière, en référence au cartoon en fait, ou à l'aspect un peu comic strip d'ailleurs de ces films.
Puis on peut faire ce reproche vraiment à quasiment tous les personnages de dessins animés, que ce soit Mickey et Donald. Qui avaient toujours leur petit. Enfin voilà,
c'est meilleur d'identifier aussi immédiatement.
Tintin se changeait de temps en temps d'un album à l'autre, il lui arrivait de quitter un peu
ses juste pour des enquêtes ou des missions.
Sinon, c'était toujours
son petit spécial. Hein.
Ouais, c'est non, il toujours mais parfois, il avait sa petite chemisette jaune, voilà quoi. Ou alors.
Sinon, c'était son petit polo, sa petite chemise qui dépassait, une petite colle de chemise qui dépassait.
Spirou, c'est pas changé pendant. Enfin, ça fait 100 ans que Spirou est habillé pareil.
Ah, il a fini par oublier. Enlever son costume de groom pour se mettre en veste.
Après, oui, c'était plus varié dans les années 80 avec Tom et Jean-Henri et tout ça.
Je sens que ça va déborder.
Alors, pour revenir à l'animation japonaise après Spirou, en parallèle donc au Club Dorothée, il y a eu plusieurs tentatives d'émission. La plus connue, c'est Youpi, l'école est finie, qui a commencé en 87. Donc à la base, je crois que le seul animé qu'il y avait, c'est Princesse Sarah. Et ensuite, il y en a eu d'autres qui ont été rachetés à AB. Enfin,
La Tulipe Noire, excellente série. Il y avait quoi ?
Non, ensuite, il y a eu tous les dessins animés sur les métiers qui existent. T'as eu Tom le Pêcheur, ouais. Le Petit Chef.
Le Petit Chef, c'était sur Youpi,
l'école est finie. Non, je crois que c'était Club
Dorothée. C'était Club Dorothée. Alors, je suis désolé parce que c'est vrai que je mélange en fait les deux.
Mais les animés se.
Mais après, le problème, c'est que comme on passe d'une diffusion à une rediffusion, etc., je me mélange un peu. Mais je pense avoir découvert toutes les possibilités de carrière. Dans les mangas, enfin vraiment, j'ai.
Du volet, du foot.
Ah, le sport, tout s'est passé.
Il y a une course automobile, non? Enfin, je sais plus.
Bah, t'avais la pole position.
Pole position.
C'était c'était Club Dorothée. Par contre, ce qui est marrant, c'est la différence entre les deux, où on pouvait vraiment voir le changement, c'est que Youpi et Koi Fini, c'était plus les dessins animés un peu familiaux. Alors, tout ce qui était les dessins animés que par exemple Miyazaki a pu participer dans les années 70, ouais, qui sont un peu occidentaux avec les ambiances, c'était plus familial, quoi. Tout ce qui
le
était.
Petit Lord.
Voilà, le Petit Lord, Princesse Sarah,
famille, ouais.
Ce genre de choses. Et c'était plus ce côté familial là, ce côté un peu gentil par rapport au Club Dorothée où c'était le sanglant, c'était qu'être le survivant et autres. Et ils ont peut-être plus contribué à une meilleure image. Youpi et l'école finie, où c'était plus les Magical Girls aussi, ce genre de trucs, creepy. Oui.
Paradoxalement, ça. Alors, je pense que pour les enfants, ça marchait très bien, Youpi et l'école finie, en plus c'était juste à 17h, donc à 17h, 18h, c'était parfait. Donc les enfants regardaient. Je suis pas sûr que les parents, enfin que ça avait marqué les parents à l'époque, où il y a eu plus de polémiques sur le Club Dorothée, effectivement, et sur la violence.
Moi je me souviens que Youpi et Koi Fini, je pouvais regarder ça avec mes parents, il n'y avait aucune remarque, Princesse Sarah, bon, les parents disaient rien, alors que bon, je suis désolé qu'ils disaient rien, mais bon. Le déferlement d'hémoglobine, ça grinçait un peu des dents.
Par rapport au Club Dorothée, en fait, ça a été arrêté. Ça a été arrêté par. À cause de Ségolène Royal. Voilà.
Qui avait sorti un livre contre les japonaises.
Elle avait sorti un livre carrément.
Sorti un livre.
Ouais, c'est ça.
Ouais, c'est son cheval.
Les japonaiseries, ça vient d'elle, quoi. C'est ça.
Voilà. Il y avait son nom ouais. Sur le livre. Ouais. Enfin, je sais pas si elle l'a écrit, mais.
Relayé par Télérama, Libération à l'époque, qui ont pendant des années contribué à cette image aussi de l'animation japonaise. Comme étant alors nié et violent. Mmh. Je pense qu'on peut parler un peu de ça d'ailleurs. Pour le coup, ça, c'était certainement à la fois injuste, mais aussi il y avait quelque chose d'assez vrai puisque AB Productions à l'époque a quand même acheté des séries à la chaîne et ont diffusé Ken le Survivant qui est destiné au public adulte, qui est extrêmement violent dans un cadre destiné aux enfants. Donc c'était aussi la faute du Club Dorothée de ne pas regarder forcément les programmes qu'elle achetait, de faire un petit peu n'importe quoi et de tout mettre dans la même case.
Il y avait une série qui s'appelait Muscleman qui a disparu assez vite aussi.
Oui, je sais pas si c'était une croix gammée qui était apparue, il y avait un méchant avec une croix gammée.
Voilà, c'était pourtant une série qui était un
pourtant, peu c'était anecdotique, c'était dans un coin, la série n'était pas du tout, c'était une série relativement gentille par rapport à...
D'autres en termes de violence,
ouais. Bah, c'était du catch, quoi. C'était un accusé du cas, mais ça allait pas très très loin. Mais c'est juste qu'à un moment, il y a un méchant, voilà, il y a une croix ouais, gammée.
De capote, enfin, c'était de chewing-gum, enfin, je sais plus, il y avait quelque chose d'assez. Ouais.
Ah, j'ai d'ailleurs une question maintenant qu'on est trentenaire, certains sont.
Nous sommes des hommes, oui.
Est-ce que vous laisseriez vos enfants regarder Ken le Survivant? Si ça passait aujourd'hui. Voilà, entre 6 et 12 ans à la télévision.
Alors
Ken le Survivant.
Moi, j'ai pas d'enfant entre 6 et 12 ans, mais jamais de la vie, quoi. Enfin, c'est le truc. Enfin, Ken le Survivant, c'est sans doute la meilleure représentation qui puisse exister pour dire que les mangas, c'est violent, c'est débilisant pour les parents. Enfin, que les parents trouvent ça débilisant, que c'est un dessin animé, c'est pour adultes. Qui a plein de qualités, mais c'est en aucun cas pour les enfants. Ça, on est tous. Enfin, je pense qu'autour de cette table.
Vu que l'influence principale, c'est Mad Max, je pense qu'on laisserait aucun. Genre, les deux premiers, on laisserait pas un gamin devant Mad Max. Là, c'est même plus violent que n'importe quel Mad Max. Donc.
Oui, c'est vrai, une méprise du fait que c'était un dessin animé, donc pour les Français, c'était pour enfants, alors qu'au Japon, c'est pas du tout la même culture, et il y a de l'animation pour adultes. Donc ça a été très, très peu compris. Après, pour le coup, on n'est pas devenu une génération non plus de psychopathes. On ne cherche pas forcément à exploser les têtes en touchant des points particuliers sur le corps de ses adversaires. Donc je ne suis pas sûr de l'influence néfaste de Cam le Survivant sur, sur les enfants. Et il y avait généralement une morale...
Je suis désolé, hein, mais de tous les épisodes de Ken le Survivant dont je me souviens, je ne me rappelle pas du tout de ce passage où il y avait une morale ou quoi que ce soit. Ken... Je me souviens vraiment, les seules choses que je retiens de Ken le Survivant, c'est tu es déjà mort, tu ne le sais pas, et dans 3 secondes, tu vas partir dans tous les sens.
Il existe 708 points mortels dans le corps de chaque individu. J'ai trouvé l'un des tiens, il ne te reste plus que 7 secondes à vivre.
Oh non, c'est impossible!
Réfléchis bien à tous les crimes que tu as commis pendant le temps qu'il te reste, mon gros!
Non, attends, maigrichant!
Il y a quand même une thématique qu'on retrouve notamment dans Dragon Ball Z, qui est une thématique du rachat, en fait, et du pardon. Parce que les grands méchants dans Ken le Survivant sont généralement, à la fin, une fois que Ken les a battus, ils ont un moment où on rappelle leur histoire assez triste... Et ils sont pardonnés. Bon, ils finissent par mourir. Généralement, ils ont tué des centaines de gens, fait un génocide et réduit des populations entières à l'esclavage. Ouais. Mais ils ont quand même ce moment où finalement, le pardon, le rachat est possible.
Mais quand t'es enfant, ça, tu le vois pas.
Tu vois juste les têtes qui explosent.
Moi, j'ai juste des souvenirs d'enfant à 6 ans. Je regardais Ken et je me disais, chacun droit à une deuxième chance. Le pardon, c'est très bien.
Mais c'est vraiment d'accord.
Alors, tu dois être le seul. Parce que moi, vraiment, je me souviens.
Ouais, mais il avait le temps, c'était les vacances aussi. Il avait le temps vraiment à étudier les choses.
Après l'épisode, il méditait dans son coin.
Après, bien sûr. Ce qui marquait quand t'étais enfant, c'était les têtes qui explosaient. Mais ça avait une puissance graphique assez pop. Moi, j'aimais beaucoup ça. Je me rappelle d'un pote qui avait les 3 premiers épisodes en VHS. On se les a matés un nombre incalculable de fois. Et je regarde un très très bon souvenir, et c'était pas traumatisant, quoi.
Ouais, je me situais dans l'entre-deux. Moi, j'ai 2 neveux de 8 et 12 ans. Bon, je crois qu'ils regardent parfois du catch, enfin des émissions un peu qu'ils aiment reproduire. Là, je m'identifie. J'ai tellement aimé ces séries, surtout les Chevaliers de Zodiac, voilà, pour ces questions d'armure, entre autres, hein, mais aussi pour la beauté générale des personnages, que je me dis que. Enfin, ça aurait été dommage que je ne puisse pas voir ce dessin animé là. J'en garde quand même quelque chose. Ces séries ne m'ont pas rendu particulièrement violent, en fait. Je trouve que j'étais à la fois stimulé par leur super pouvoir, leur cosmo-énergie, toutes ces questions-là, mais j'étais déjà à peut-être 8 ans affecté par les notions de perte et de sacrifice. Lorsque je voyais la relation un peu particulière entre, comment il s'appelait, Sean et son frère Ikki, par exemple, qui progressait au fur et à mesure. À mon petit âge, j'arrivais quand même à déceler quelque chose. Je pense qu'on n'est pas si idiot que ça quand même, et qu'on arrive à faire la part des choses. Donc oui, il y avait des séries assez excessives, notamment Ken le Survivant, dont j'ai un moins bon souvenir, parce que j'étais peut-être un peu moins fan. Mais je me dis qu'on arrive quand même à s'intéresser à autre chose qu'au seul spectacle.
Mais parce qu'il y avait une histoire aussi. Ouais. Chevalier de Zodiac, il y a quand même une vraie trame, il y avait vraiment un cadre. En plus, ça a fait, j'imagine, pas mal pour nous découvrir la mythologie grecque.
Clairement.
Donc il y avait quand même un cadre assez original qui faisait qu'une vraie
Ken,
histoire.
Ken, je suis pas sûr, vraiment. Je garde pas grand souvenir de.
Et une mythologie.
Oui, il y a aussi une mythologie, donc Ken, il y a quand même un cadre.
On apprend les différentes constellations aussi.
Ah oui, fameux.
C'est vrai que j'exagère, je grossis un peu le trait sur Ken le Survivant qui est pas défendable en tant que série.
C'était plus pervers, Ken, c'était plus
il y a une perversion
tordue.
C'est pas pour les enfants.
Il n'y a pas de cynisme, d'ailleurs, c'est très premier degré, mais il y a ce sadisme qui existe. Par contre, c'est vrai que le problème, c'est que le fait que Ken le Survivant soit diffusé a mis à la fois Dragon Ball et les Chevaliers du Zodiac, notamment, dans le même sac de violence gratuite qu'il y avait. Pour Dragon Ball, c'est un peu différent, mais c'est pas si violent que ça, au final. Enfin, là aussi, on peut en débattre. Les Chevaliers du Zodiac, c'est clairement moins violent. Et en plus, là, au niveau moral, je trouve que c'est absolument inattaquable. Enfin, les vertus qui sont présentées dans les Chevaliers du Zodiac, c'est des vertus, c'est les mêmes, d'ailleurs, qu'on trouve dans beaucoup de shonen de l'époque d'Olivier Tom sur le dépassement de soi, effectivement.
Sur le principe, en fait, je pense que c'est pas par rapport aux personnes qui ont monté tout ça contre les mangas, contre l'animation japonaise. Ils sont pas, je pense pas qu'ils se soient beaucoup penché sur le sujet. De ce côté-là, les choses n'ont pas évolué maintenant encore. Dès qu'il y a une polémique à faire, dès que ça rapporte un
sur
petit
les jeux
peu,
vidéo,
quoi que ce soit. Mais voilà, enfin, dès qu'il y a quelque chose qui fait vendre, qui, je veux dire, les gens font des raccourcis faciles. Voilà, c'est ça. C'est aujourd'hui, maintenant, c'est les jeux vidéo. Il y a quelqu'un qui a tué, je sais pas combien de personnes, parce qu'il a joué à GTA, etc.
Il a regardé Matrix.
Mais voilà, donc je pense que, en fait, même si. En fait, ils ont mis ça dans un seul et même sac, et de toute façon, malheureusement, on n'y peut rien, et c'était assez commode, et je pense sincèrement qu'ils n'ont pas vu toutes les séries qu'ils ont dû citer à l'époque et qu'ils ont interdit. Hein. Vraiment.
Bah, ils sont arrêtés, parce que s'ils avaient juste fait un effort de. Même d'aller au Japon, de voir la production là-bas, de la multitude de,
tu vois, séries qui peuvent... Japon, c'est déjà juste trop regarder ce qui se passait à l'époque.
Oui, mais c'est comme si je disais... c'est comme si il y a Transformers qui sort et j'ai dit tout le cinéma américain, c'est ça, quoi. Après, c'est aussi bête...
La critique était très loin de moi à cette époque, mais je viens d'y penser, c'est contemporain, en fait, de Tueur Né. Et des crimes qu'ont commis Aubry Maupin et sa compagne à l'époque, donc vers 94. Et je me demande si il n'y a pas eu un amalgame effectivement entre certains films ultra violents de l'époque. Il y avait aussi Assassin de Kassovitz qui avait un peu fait parler en 97. Enfin, il y avait vraiment une période
alors que
où,
c'est, alors que c'est des déclencheurs de personnes qui avaient déjà un souci, mais c'est pas.
Clairement, c'est. Mais voilà, je crois.
Ouais. C'est vrai que sur les dessins animés, c'était plus préventif en fait. C'était protéger la jeunesse contre la violence et la niaiserie de ces productions américaines. Ce qui a déjà existé d'ailleurs dans les comics à la fin des années 60, quand les comics Marvel sont arrivés en France, où il y a eu des ligues de protection de l'enfance qui a tout fait pour interdire la publication de fantasques, de Strange à l'époque, parce que c'était néfaste. Pour la jeunesse. Donc c'est assez cyclique en fait, dès qu'il y a quelque chose de nouveau, là c'est l'animation, qui arrive, que les adultes ne comprennent pas forcément, et qui apparaît comme assez criard, violent, il y a toujours une levée de bouclier et une interdiction assez immédiate.
Ce qui est dommage, c'est de se braquer se braquer immédiatement sans chercher à analyser un peu la chose en profondeur. Ouais.
Moi j'accepte One Direction. Pourtant, ça peut être assez violent dans les concerts. Mais pourtant,
bah, y a un des One Direction qui a été blessé, j'ai entendu récemment. Vous n'êtes pas au courant, non, par un fan. Enfin, je.
De quoi ?
Je suis pas trop l'actu.
De nouveau, les One Direction, je sais plus de quoi on parle.
Je reçois les news de Voici et j'ai lu qu'un des One Direction avait été blessé par un fan pendant un concert la semaine dernière.
Merci.
On en reparlera à la rentrée, je crois.
Merci.
Voilà. Non, mais oui, c'est cette question effectivement. Donc. La question après, c'est est-ce qu'on est en train de défendre Dorothée ou alors simplement les programmes en eux-mêmes, quoi. C'est des dessins animés.
En fait, elle a fait n'importe quoi, mais sans ça, on n'aurait peut-être pas été aussi ouvert à cet univers-là. Mmh. Parce que du coup, ça a desservi d'ailleurs après, quand tu as eu des vraies choses de qualité qui sont arrivées, quand tu as eu le premier Miyazaki Porco Rosso qui est sorti. Alors, je me souviens des critiques à l'époque, il s'était fait démonter, quoi. C'était ridicule quand c'était Jean-Pierre Dionnet qui l'avait sorti, c'était en 95.
Quoi. Ouais, 95.
Et bon, c'était dans cette mouvance, ça suivait toute la polémique, les polémiques qu'il y avait pu avoir. Bon, t'as quelques critiques qui avaient les yeux ouverts ou qui connaissaient déjà au Japon quelques-uns.
Ouais, ils étaient rares. Hein. Enfin, il y avait quand même un amalgame.
Ouais, il y avait un amalgame où c'est quoi, il a une tête de cochon, chez machin.
Mais ça avait pas fait des formes. Ça a quand même créé. Enfin, aujourd'hui, si la Japan Expo ça existe, si les mangas existent en France, si il y a des de l'animation japonaise qui sort,
ouais, c'est une fanbase, ouais, c'est créé là.
Mais ça qui sort en France au cinéma, c'est qu'il y a des gens pour aller le voir et il y a toute une culture qui s'est mise en place. Et je pense sincèrement que sans le Club Dorothée, tout ça n'existerait pas du tout. Mmh. Vraiment, le Club Dorothée avait sûrement plein de défauts et il y avait quelques émissions qui étaient pas forcément toujours drôles, mais en tout cas en termes de diffusion, ils ont diffusé dans la masse, mais ils ont quand même diffusé. Enfin, tout ça a fait que ici on a tous été à un moment ou à un autre touchés par un film, enfin une série d'animation, et donc du coup après on est allé plus loin. Moi, je me souviens des premiers mangas que j'ai achetés, etc., etc. Donc, et tout ça découle du Club Dorothée, parce que moi les mangas que j'ai le les deux séries que j'ai le plus suivies c'était en manga papier, c'est Dragon Ball et Nicky Larson, et tout ça c'est aussi c'est grâce au Club Dorothée quoi. Donc je pense vraiment que le Club Dorothée a aussi ouais c'est ça, c'est vraiment à créer toute une génération voilà
ouais, qui s'intéressait à... Moi j'irais même plus loin pour le coup, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et le fait que regarder et avoir accès à cette culture en fait en étant enfant m'a appris ou m'a empêché d'avoir des œillères dans mes goûts de cinéphile. C'est-à-dire qu'il y a eu toute une génération de critiques avant qui descendaient justement ces dessins animés sans les connaître, qui ne s'intéressaient pas aux arts populaires. Le fait d'avoir accès enfant à ces arts japonais m'a ouvert un peu l'esprit en ne m'enfermant pas dans une cinéphilie élitiste. Qui fait que maintenant j'apprécie autant je sais pas Jean-Luc Godard que Hideaki Anno qui a fait Évangélion, voire écrire un texte analytique sur la mythologie dans la Chevalier du Zodiac est tout aussi intéressant que d'écrire sur Nouri Bilge Ceylan par exemple. Et ça je pense que c'est je sais pas si je parle pour une génération, mais en tout cas pour moi je vois ça un peu dans les gens qui ont à peu près notre âge, qui écrivent sur le cinéma.
Ouais, ça nous a semblé naturel.
Ce cloisonnement qu'il pouvait y avoir avant entre art populaire, qui était forcément mauvais, et une cinéphilie plus élitiste, qui était du cinéma d'auteur, noble, et dont on pouvait parler et qu'on pouvait défendre. Je ne sais pas ce que vous en pensez
d'accord.
De quelle manière ça a éclairé votre
cinéphilie. On a eu l'œil, ça nous a ouvert l'esprit dès l'enfance, sans... Et du coup d'ailleurs c'est même dans le cinéma américain Matrix ça vient de là quoi, c'est vraiment ils ont grandi avec toute cette culture là et puis ils ont réussi à faire un melting pot intéressant avec Matrix et les Wachowski, donc ça découle de là, ça, même dans la création, dans les nouvelles créations qui ont pu se faire après coup quoi.
Et puis ils ont fait Speed Racer en plus.
Oui, celui-ci qui est encore plus même plus que Matrix hein, carrément.
Moi, je dois confier, je dois avouer être assez sélectif aujourd'hui en tant que spectateur adulte dans les films d'animation que je vais voir. Je me suis bien sûr intéressé aux travaux du Pixar, mais c'est vrai que je ne vais pas voir tout ce qui sort en termes d'animation. Il m'arrive d'avoir des a priori.
Il y a comme pour les films. Hein,
comment dire ? Autant cette jeunesse, cette enfance à regarder vraiment tous ces dessins animés, ces mangas qui m'ont marqué que je n'ai pas vraiment revu depuis, mais dont je garde une image très forte et dont je prends plaisir à parler aujourd'hui avec vous, c'est assez évident. Mais je dois avouer que mon évolution cinéphile, tout en restant effectivement curieux de ce qui se fait en termes d'animation, a peut-être eu tendance à se détacher un petit peu de son actualité pure, même si j'ai très envie d'aller voir le film de Takahata, parce que je suis extrêmement fan du Tombeau des Lucioles, qui est peut-être le dessin animé qui m'a... le plus marqué dans ma vie. Miyazaki fait également partie de mon panthéon, mais c'est vrai que je pense avoir une culture...
Là, par exemple, à part Ghibli, est-ce qu'il y a d'autres réalisateurs japonais d'animation qui t'intéressent?
Là pour le coup je sèche un petit peu.
Satoshi Kon
j'exagère, je suis vraiment pas trop fermé.
Oshii, Mamoru Yoshii, enfin,
non là pour le coup non,
c'est non, important.
Mais je peux en regarder, oui. Par exemple, mais l'aimer sur le moment sans pour autant aller plus au fond, plus loin, on va dire, dans une vraie recherche. Oui. Là où d'autres, dont vous, je pense, sont beaucoup plus...
Par exemple, est-ce que tu es allé voir le... je sais pas si on peut parler de remake ou de reboot d'Albator qui est sorti.
Pas du tout, j'en ai pas eu envie. En
fait. Donc ouais, tu voulais pas avoir cette aspect...
Pas de discrimination, pas de rejet, simplement... J'avais d'autres priorités. Moi, c'est vrai que j'ai tendance à être très centré sur
les questions de réel. Les spectateurs, c'était par pure nostalgie, je pensais, Albator. Ça n'a pas motivé des gens parce qu'ils voulaient voir Albator.
Par rapport à Albator, je pense qu'il y a peut-être aussi eu une peur de toucher au mythe, en fait, d'Albator, de tout ce que ça représente. C'est un peu comme revoir un film qu'on a adoré quand on était gamin, ce genre de choses, ou un dessin animé, et de se dire mais comment c'est possible quoi, enfin de se dire de pas aller le voir parce que t'as peur d'être déçu en fait, de dire bah, j'ai pas voir Albator parce que je trouvais ça tellement fantastique que de toute façon même si le film est merveilleux, tu seras forcément déçu.
préfère rester dans nos souvenirs.
C'est pas.
Après, c'est, ouais, c'est, Albator, c'est quand même complètement différent de ce qui s'est fait en 78 et 84.
D'ailleurs, bon, je sens d'annoncer le film, il y a une refonte du mythe, pour ceux qui ont vu le film, à même le film, il y a une refonte complète du personnage, un rebondissement qui fait que ça reconstruit complètement la chose par rapport à l'origine, donc il peut en plus d'autant plus choquer si on vient par nostalgie.
Mais donc ça, tu l'évoquais tout à l'heure, Alex, est-ce que tu as revu des séries d'animation que tu aimais en étant enfant et que tu as pu apprécier maintenant avec ton regard d'adulte? La question est plus générale d'ailleurs. Ou est-ce que à chaque fois tu t'es dit non, en fait j'aimais ça quand j'étais enfant et c'est tout pourri quoi.
Alors Nicky Larson en version française a toujours autant la classe. Alors moi je les ai revus en version. Alors j'ai revu les deux en fait. J'ai revu les versions françaises en VF.
Avec la censure.
Ouais c'est ça. Et j'ai revu les versions originales. Pareil, qui sont sortis aussi en DVD il n'y a pas très longtemps. Et je trouve, hein, j'ai eu toujours autant de plaisir à voir. Du coup, je me suis fait toutes les séries. Je me suis fait l'intégrale, plus tous les films qui sont sortis que je n'avais pas forcément vu à l'époque.
C'était les films Madeleine de Proust ou c'est vraiment, t'as vraiment trouvé ça bien, la revoyure vraiment...
Je sais pas. Je crois en fait que comme j'ai même les mangas papier hein, de Nicky Larson, c'est mon préféré, c'est le numéro 1. Juste devant XOR, donc XOR c'est pas un animé, mais je pense que Nicky Larson, je pourrais pas trouver ça pourri. Même le film avec
XOR, faut pas revoir. Hein,
non, mais même le film avec Jackie Chan de Nicky Larson, j'ai trouvé ça bien. Donc,
moi, Nicky Larson, il y a une dizaine d'années, vers 2001, je sais plus, je suis retombé sur quelques épisodes qui étaient rediffusés sur une chaîne, je crois du câble, je sais plus. Et je dois avouer que j'ai été déçu. Là, on va encore parler de projection, dans le sens où je les ai trouvés moins beaux que dans mon souvenir. C'est-à-dire qu'à l'époque, pour moi, effectivement, ils étaient vraiment je trouvais que le dessin était extrêmement soigné. Et en les revoyant, j'ai trouvé que je voyais plus un peu les défauts de tracé, de dessin. Je sais pas, il y avait quelque chose qui me bloquait un petit peu plus.
Alors, ouais, je suis d'accord avec toi. Mais le dessinateur en fait a aussi évolué dans son trait de crayon, parce que maintenant il a ressorti City Hunter, donc le vrai nom de Nicky Larson, mais sous le nom de Angel Heart.
Ouais, c'est la suite.
Et donc c'est la suite en fait. Donc et tu vois même donc Nicky Larson. Son trait a évolué, tu vois, tu le vois beaucoup plus adulte. Parce qu'au final, les premiers Nicky Larson qui sont sortis sont quand même assez, au niveau du trait, c'est quand même assez enfantin, entre guillemets, par rapport à ce qu'il peut faire maintenant sur Angel Heart, où il a, où tu vois vraiment un trait beaucoup plus adulte, beaucoup plus contemporain peut-être, mais...
C'est vrai que le ton aussi. Parce qu'Angel Heart, c'est beaucoup plus adulte aussi dans ce que ça raconte, c'est beaucoup plus sérieux que Nicky Larson aussi.
Mais vous avez revu beaucoup de dessins animés récemment.
Qu'est-ce que j'ai revu? Alors dans ce que tu disais sur Nicky Larson, où il y a des épisodes un peu moches, il faut savoir aussi que c'était des équipes différentes sur chaque épisode, donc d'un coup, d'un épisode à l'autre, tu peux avoir un épisode, surtout sur Saint Seiya, Chevalier du Zodiac, ou peut-être cet exemple-là, où quand tu avais, selon les équipes qui bossaient dessus, tu peux avoir un épisode, mais hideux, qui ressemble à rien, et le suivant qui était magnifique, digne d'un film d'animation.
Souvent, les épisodes pas importants sont quand même très médiocres, ils sont dessinés, tu as 3 dessins avec
la Chevalier Noir,
parce que tu avais les deux équipes, tu avais Araki, Shingo, Araki, qui étaient quand ils étaient dessus, bon, tu avais des épisodes magnifiques.
Il y avait des émissions, des épisodes où les personnages avaient de très grosses jambes, et puis d'autres où ils étaient tout fins. C'était très étrange.
Mais ça, ça dépend. Il y avait l'urgence d'un épisode par semaine.
Ça faisait un peu torché.
Selon le talent des équipes qui bossaient dessus, selon l'intérêt de l'épisode.
Ça existe encore aujourd'hui. Hein, parce que sur une série comme sur Naruto, par exemple, il y a beaucoup d'épisodes. Ou sur Bleach, il y a beaucoup d'épisodes qui sont pas là. Qui ne suivent pas la trame du manga papier original, mais qui sont des histoires originales. Alors, parfois on a un peu de chance, ça tient la route. La plupart du temps, il faut le dire, l'histoire est pas top et la production a été confiée à des équipes étrangères. Pour la plupart du, enfin la plupart du temps, c'est pour Naruto, c'était produit en Chine et la qualité n'était pas forcément là puisque comme tu l'as dit, il faut remplir un épisode par semaine. Et parce que de temps en temps, les animes prennent des pauses au Japon et ils partent en vacances aussi d'une semaine à l'autre. Mais généralement, tu dois avoir ton épisode dans la semaine.
Des fois, il y a une autre raison, c'est qu'il y a la parution manga en même temps. Donc parfois, l'anime rattrape le manga. Il faut que l'anime continue quand même. Donc il faut mettre des épisodes de remplissage pour la série, pour laisser le temps au manga d'avancer, pour que ça se fasse parallèle.
Les champions du monde dans ce cas-là, c'est sans doute Dragon Ball. Hein. Je pense où il y a eu un nombre incalculable... les combats duraient 10 ans alors qu'en 5 pages dans le manga papier c'était fini. Et c'est vrai qu'il faut, enfin le business is business quoi.
Surtout ça, t'avais le fameux truc où le combat va commencer et puis avant de se battre il y a un adversaire qui se souvient des leçons de son maître dans son enfance et autres. Ouais. Finalement ça prend tout l'épisode et au moment ils vont enfin se battre, mais ça se termine,
c'est ça, c'est...
l'épisode suivant je pense que ça va enfin démarrer et puis non, c'est l'autre adversaire qui va se souvenir de la leçon de son maître et de son petit cousin dans son enfance, de son trauma.
On va faire un petit détour sur le nuage.
Et quand c'est pas les deux combattants, c'est ceux qui regardent qui se souviennent d'un souvenir avec le combattant, et puis ça pouvait durer 15 épisodes comme
et
ça.
Et puis tu as aussi les 15 minutes, les 15 dernières minutes de l'épisode qui dure 20 minutes, où tu as juste une voix off qui t'explique ce qui va se passer. Et au final, tu les vois... en train d'accumuler de l'énergie, chacun de leur côté, ils sont prêts à se battre. Et là, il y a la voix off qui fait « Que va-t-il arriver à Sangoku ?» Et il y a des blancs comme ça, et Freezer.
Et... L'autre grand truc aussi pour économiser de l'animation comme ça, d'ailleurs ils le font aussi dans les mangas pour pas avoir trop à dessiner, c'est l'explication des attaques. Donc ils viennent de se battre, il y a des attaques, et puis t'as un perso ou un plan fixe comme ça, avec une grosse bulle qui remplit, bien pour dire « Oui, il a fait la technique du machin, du truc. » Et puis ça évite de voir, de faire plein de dessins du combat qui va suivre. Et puis en animation, ils faisaient ça aussi, où... Ah, les personnages en plan fixe, il y a juste la bouche qui s'anime pour expliquer de ce qui va se passer. Et puis,
Alors, quand même, un truc que tu disais sur Nicky Larson, c'était que tu les avais revus en VF.
Ouais.
Bon, moi, je trouve que ce qui est très daté, c'est outre effectivement ces problèmes d'animation qui sont dus à la production, maintenant certaines copies ont assez vieilli, donc d'accord, on Blu-ray ou en DVD, ça peut être pas mal, sont les versions françaises et le doublage. Parce que les dessins animés qu'on avait vus, pour être adaptés au public français et pour être adaptés aux enfants, étaient complètement censurés.
En tout cas, pour Nicky Larson.
5 minutes, c'était le cas pour Dragon Ball, les Chevaliers du Zodiac. Les épisodes pouvaient durer 16 minutes, ils duraient 22-24 minutes au Japon, donc voilà, voire moins en France. Et les doublages étaient relativement.
Édulcorés.
Rocambolesque pour le
voir même parodique.
Parodique sur des.
Pour Nicky Larson, c'était n'importe quoi. C'est-à-dire que Nicky Larson, en fait, dans la version originale, se fait payer de ses clientes en tirant un coup avec elle. Et en France, bien sûr, Club Dorothée, ce n'était absolument pas ça. Et donc, tous les love hotels qui peuvent exister au Japon se transforment en restaurants végétariens.
Et nous pourrions tous travailler ensemble dans un immense restaurant.
Oh, il y aurait plein de plats végétariens du monde entier.
Exactement, et des plats extraordinaires, les plus rares et les plus
très intéressants.
Agréables. Et vous pourriez, vous, par exemple, le service, vous seriez d'une chambre à l'autre, d'une salle de restaurant à l'autre, apporter un souffleur, une salade,
des petits
pois, des carottes, et bien sûr, du lait frais.
Et donc tu avais Nicky Larson qui était complètement dingue quand il arrivait dans un quartier où il n'y avait que des restaurants végétariens. Quand tu es enfant, tu peux penser que être végétarien, c'est cool. Et du coup, il y a peut-être des végétariens en France qui ont commencé en se disant « Je veux faire comme Nicky Larson, moi aussi, je ne veux pas manger de viande. »
Et puis il y a aussi le Mokori quand même qui était le mot que c'est l'érection vu que Nicky Larson avait des érections assez spectaculaires
dans le manga.
Ouais. Alors, je sais pas si j'ai jamais vu en japonais City Hunter s'ils avaient mis ça, parce que dans français on n'a jamais vu.
Si, mais il a une bande noire en fait.
Voilà, d'accord, bon, ça a été coupé aussi quoi. Donc,
parce que non, c'est différent parce qu'au Japon en fait la nudité est interdite. Enfin, à caractère sexuel. C'est-à-dire que c'est pour ça que. sur Nicky Larson, sur ce genre de choses, c'est quand, dans la version originale, t'as un espèce de je sais même pas si c'est pire au final, parce que t'as une espèce de rectangle noir énorme, et ou alors c'est flouté, ce genre de choses. Mais c'est vrai que en France, entre le doublage, je crois le pire en fait, parce qu'il y a, quand même une attention un petit peu particulière qui était portée au personnage principal, mais tous les personnages secondaires,
les méchants,
t'avais un. Je pense que c'est une seule personne qui doublait tous les méchants.
Il a un nom, cette personne s'appelait, Sarfati, Dominique Sarfati, un truc comme ça.
Voilà.
Où j'avais lu, c'était dans Animeland, hein, où ils avaient fait, ils l'avaient interviewé pour. Et en fait, la raison, c'était que trouver en fait les animés, les trucs qui doublaient trop violents, donc c'était pour atténuer la violence du spectacle. Il a mis un petit côté parodique avec son doublage. Quoi.
Ça, le voleur, je suis le voleur, je suis méchant. Que je suis méchant. Oui, je vais faire bobo.
Cette fois, Larson, ou Larson, je ne sais plus comment tu t'appelles, je te dis que j'en ai un fait, tu l'auras cherché.
Nous allons voir ça.
Eh bien, voyons-le. Plus vite que moi. Oh, bobo. Attends, où vas-tu, Mammouth? Tu pourrais répondre, moi.
C'est une proposition intéressante, mais comme tu le sais, j'ai toujours préféré avoir ma liberté. J'ai besoin d'y réfléchir encore.
À ta guise, Mammouth. Je l'appelle Mammouth au lieu de Mammouth. Simplement pour l'énerver, mais il a des nerfs d'acier.
C'est lui aussi qui a doublé pas mal de méchants sur Ken le survivant.
Mais par contre, c'est que c'était vraiment pas drôle. Et c'est honnêtement, quand tu revois ça maintenant, tu trouves ça vraiment tout pourri. Quoi.
C'est vrai que ça nous a marqué à l'époque, ces voix, justement, en général. C'est vrai que le Mammouth, il y avait quelque chose d'assez... C'est vrai que ça rendait les méchants un peu ridicules et en même temps, voilà. Quoi.
Alors que c'était pas du tout ça dans tu vois, en japonais, c'était pas
c'est
du
c'est,
tout
ça. C'est resticulte et pourtant c'est une trahison complète du matériel.
Bah ouais,
c'est ça. Pour le coup, moi, il y a beaucoup de séries comme ça que j'ai essayé de revoir. En fait, j'avais un peu laissé tomber l'animation jusqu'à la diffusion d'Evangelion et d'Escaflowne sur Canal+, en 99 par là. Et à l'époque, bon, c'était le tout début d'Internet, donc on pouvait acheter des copies pirates importées de Hong Kong d'animation. Donc effectivement là c'était pas censuré, néanmoins les sous-titres étaient des sous-titres anglais traduits directement du chinois et deux fois sur trois ne voulaient absolument rien dire. Donc, mais bon, pour 40€ t'avais l'intégralité de la première partie du sanctuaire. Et à l'époque je m'étais refait donc tout Ken le survivant et tout Saint Seiya. Et je veux dire que sur les deux séries, j'avais un vrai plaisir de la redécouverte. Alors sur Saint Seiya,
le doublage était quand même de qualité, Saint Seiya.
Ouais, je trouve. Pour moi, les voix des personnages,
j'ai un très bon souvenir du doublage quand même. Ils essayaient d'être fidèles en tout cas à l'esprit.
Il y a quand même des contresens. Je me rappelle que Sean a une voix de fille dans les premiers
épisodes.
Oui, absolument. Bon, est-ce qu'on peut leur en vouloir?
Au niveau de l'interprétation, au niveau du ton, quoi.
Andromède.
Nébulaire, là.
Ouais.
Exactement.
Mais au niveau du ton, ils étaient quand même respectueux, c'était pas paro, ça se moquait pas de ce que ça racontait, quoi. Ils essayaient d'être dedans.
Oui, c'est vrai que c'était surtout sur Ken et J.K. Larson où ils ont eu cet aspect humoristique qu'ils ont essayé d'accentuer en l'adaptant au public français.
Puis je trouve que les voix donnaient un certain charisme aux personnages, en tout cas dans les Chevaliers de Zodiac. Par exemple, Phoenix qui avait cette voix un peu très grave.
En plus, les acteurs étaient doués parce que par exemple, t'as Shiryu le dragon et Yoga le cygne, c'était la même personne qui doublait. Et
il y avait une légère variation.
C'est en le sachant après coup qu'on se rend que c'est criant, mais quand on voyait, on
percutait pas. Voilà, c'est. On n'a pas beaucoup parlé des séries drôles, enfin. Non. Parce que c'est vrai qu'il y a de la violence, mais il y avait.
Oui, c'est vrai. Bah, mais en même temps, tout était mis un peu dans le même sac. Hein.
Ouais.
Et je sais pas si les. Alors, à la fois, les séries pour filles, les Sojo. Peut-être moins marqués, et pourtant Sailor Moon était quand même extrêmement présente. On peut pas dire que Juliette Je T'aime,
Rumiko Takahashi,
ou Jeanne et Serge, ou Ranma 1/2 soit particulièrement violent. Et pourtant, ça a quand même.
Mais c'était pas pour
ce que Jeanne et Serge, ça a eu des vocations entières au niveau du volleyball en France.
Hein, voulais faire du volley, donc j'étais.
C'était pas pour lui. Même quand tu vois des volleyeuses, je crois que c'était il y a 2 ou 3 ans, tu avais des volleyeuses qui étaient arrivées loin. Dans je ne sais quelle compétition, tu as les interviews, il y en avait pas mal, c'était Marie, mais Jeanne et Serge, quoi. Ça a suscité des vocations.
Même au-delà de ça, au niveau de notre génération, il y a des questions intéressantes sur le genre.
notamment qui sont des problématiques très actuelles, mais du fait que des garçons regardaient des séries pour filles, mm-hmm. que les filles regardaient des séries de garçons, alors qu'au Japon c'était très compartimenté. Et moi je me rappelle que j'avais pas forcément honte de regarder Candy, Jeanne et Serge à l'école primaire, alors que c'était des séries qui étaient destinées forcément aux filles.
Il y a quand même une petite différence entre, au final, quand tu vois Candy qui est vraiment une série pour filles, Juliette, enfin, ce genre de séries qui sont vraiment pour filles, alors que Jeanne et Serge, au final, t'as quand même la partie sport, même si t'as le côté toujours présent, romance entre. Forcément Jeanne et Serge et tous les autres et au final
tous ensemble écoute Jeanne, Serge, tous les autres venez
et tous leurs amis voilà.
Et donc au final il y a quand même du sport et c'est quand même la thématique principale du truc et je pense que c'est une série qui peut être autant regardée par les filles que par les garçons. Mmh. Puis en plus le volley au final c'est un sport qui est pas forcément fille ou garçon. Contrairement à une série comme Olive et Tom, qui là pour le coup était clairement, enfin c'est clairement foot, c'est clairement plus pour les garçons.
Alors pour le coup, est-ce que tu regardais, tu disais tout à l'heure Elvire que tu regardais des séries pour garçons avec tes frères, mais est-ce que tu pouvais regarder par toi-même Olive et Tom par exemple?
Non,
c'était plus compartimenté.
Je regardais pas toute seule.
Et ça te plaisait pas du tout donc les séries.
Olive et Tom, j'aimais bien. Si, j'aimais bien. Mais j'aurais pas regardé toute seule comme ça.
Et puis il y avait d'autres séries comme Princesse Sarah, où c'est pas connoté, enfin l'héroïne est une fille, mais il n'y a pas de romance, il n'y a pas de côté, c'est plus du gros mélo. Alors c'est adapté d'un bouquin anglais, quoi, et en fait c'était plus du gros mélo qu'autre chose, il n'y avait pas de côté appuyé qui faisait que c'est une fille pouvait plus regarder qu'un garçon. Enfin je trouve quoi.
Vas-y.
J'ai pas l'impression que tous les garçons adoraient Princesse Sarah quand même.
Mais c'est...
Il y avait un côté très, très larmoyant qui faisait... ça dépendait de l'âge, bien sûr, qu'ils avaient, mais qui faisait que parfois, ils préféraient... Il n'y avait pas de combat, quand même. Il n'y avait pas de combat. Ni combat.
Il n'y a pas grand-chose.
Mais juste sur l'histoire en elle-même...
Il n'y a pas grand-chose qui se passe.
Il n'y a pas grand-chose qui se passait, à part Sarah qui était...
qui pleurait souvent.
Qui pleurait qui était opprimée de la première minute à la 20e minute. Au final, il se passait rien. Quand je veux dire, à chaque fois, elle était sympa avec tout le monde, et à chaque fois, elle se faisait rouler.
C'était pas la plus intéressante.
J'adorais, mais c'est.
Moi, ça marchait quand même. J'étais pas.
Mais je pense sincèrement que, enfin, il peut y avoir une partie dont moi je fais partie, une partie du public. Donc moi, je fais partie qui faisait pas forcément de distinction série exactement, pour filles, série pour garçons. Candy, moi ça me touchait pas plus que ça. Et il y avait aussi Lady Oscar, pareil, enfin c'était pas trop ma cam. Mais après il y a des séries, mais
ça pouvait marcher pour les garçons,
non, mais, Lady Oscar, voilà, mais après il y a des séries que ça soit Princesse Sarah, que ça soit Lucie l'amour et rock'n'roll, ce genre de choses
qui est aussi populaire chez les garçons.
Voilà, c'est ça, c'est Sailor Moon, toi qui aimais beaucoup Sailor Moon. Alors là, je les ai revus en DVD parce qu'ils sont ressortis récemment chez Kazé. Et alors, c'est quand même, enfin, il y a quand même des moments où c'est très mal dessiné. Et
la série des années 90.
Ouais, tout à fait. La série des années 90 où tu te rends compte que, le scénario a dû être écrit en 2-7 et c'est pas de la grande animation. Enfin, c'est de l'animation soit des années 90, mais je peux comprendre. Avec la nostalgie, à mon avis, ça doit passer tout seul.
Et une autre série qui est intéressante, justement, j'ai cité Ranma Demi tout à l'heure, qui est tout à fait représentative d'une série à la fois pour les garçons et les filles, et qui d'ailleurs utilise les métamorphoses, puisqu'il y a des garçons qui se transforment en filles, un garçon qui se transforme en fille, ou inversement, donc
c'est une
thématique qui est ou en panda.
C'était le père, ça.
Oui, c'est vrai qu'il y avait à peu près deux courants vraiment stimulants, en fait, dans certaines de ces séries. C'était... soit le souci de la performance, c'est-à-dire une manière de tout accentuer dans une série comme Le Petit Chef, par exemple, le fait de mijoter un plat, ça devenait carrément le combat d'une vie. Il y avait vraiment quelque chose, et c'était un régal pour moi chaque mercredi matin de regarder ça, quoi. Thomas qui allait trouver le poireau, qui allait faire la différence par rapport à son plus grand ennemi.
C'est important, faut dire ça.
il y a quelques podcasts, je parlais d'Olive et Tom, qui m'avait donné envie de devenir footballeur à l'époque, c'est vrai, parce qu'il y avait une manière de faire du match quelque chose de gigantesque.
Il y avait un côté épique, quoi.
C'est ça, quoi.
Et tous les shonen un peu années 80, c'est ce côté-là, vraiment, tout devient une grande aventure épique, même le match de foot, ça devient une espèce de combat de titan.
Faut dire que le terrain est quand même super long.
Extrêmement long.
C'est un combat titan.
Mais je pense que j'aime pas le foot à cause de Liv et Tom, parce que je me suis une image tellement formidable du foot que, quand j'étais gamin, que quand j'ai commencé à pouvoir voir des vrais matchs de foot, je me dis mais c'est tout pourri.
Bah c'est ça,
dans 2 mètres carrés, il court après une balle.
Il n'y a pas de catapulte avec les frères Eric, il n'y a pas de.
Le
ballon qui déchire les filets, quoi. Enfin, tu vois, il y a vraiment quelque chose. C'est, voilà. Et c'est vrai que quand tu arrives au réel du foot, bon, bah, il y a des temps morts, il y a des temps faibles. Mais c'est vrai que.
C'est avec la boxe, avec Raging Bull, enfin, avec tous les films de boxe.
Ouais, c'est.
J'aime beaucoup le sport au cinéma. Pour revenir aux séries un peu de filles comme ça, il y avait déjà des côtés un peu tendancieux, alors que ça n'avait pas été reproché parce que c'était moins voyant que sur les séries de garçons. Mais je me souviens d'une série qui passait dans le Club Dorothée qui s'appelait Georgie, je ne sais pas si vous vous souvenez, avec une orpheline qui était recueillie dans une famille, et en grandissant, elle est élevée avec ses deux demi-frères.
C'est ça.
Et puis à l'adolescence, les deux demi-frères sont amoureux d'elle. C'est un petit peu.
Dans beaucoup de séries, il y avait des problématiques morales un petit peu tendancieuses. Il y avait Wigman sur lequel il y avait un héros assez obsédé aussi. Nicky Larson, c'était.
Le collège des ninjas.
C'était quand même de l'inceste, quoi, Georgie.
Non, c'est vrai qu'un de mes grands regrets, moi, outre donc. C'est vrai que j'ai été marqué par la beauté des filles aux grands yeux, par les armures des chevaliers du Zodiac, l'héroïsme et tout ça, mais. Il y avait aussi l'idée de pouvoir devenir tout petit comme les joyeux loufoques. Enfin voilà, c'est une chose qui a été très difficile pour moi d'accepter le fait de ne pas pouvoir me transformer comme les personnages de ces dessins animés. Je pouvais passer d'un état de pur comment on va dire ça. En fait, il y avait un travail entre la concentration et le débordement. Enfin, vous voyez ce que je veux dire.
Mais quand il cédait un peu à la bêtise, il s'abandonnait à la bêtise complète, et voilà, il devenait minuscule.
Mais c'était pareil pour Nicky Larson, qui ne rapetissait pas, mais qui passait du mec très droit, main dans les poches, à un mec totalement bavant, avec des petits yeux. Et dans tous ces dessins animés, il y avait ce sens-là du vautrage, du ridicule, qui, quelque part, a un peu fait mon humour.
Et comme on disait, c'est ce que ça vous a ouvert à un genre d'humour un peu japonais, un peu
excessif,
qu'on a pu trouver dans des Kitano à Getting Any, ce genre de truc.
Moi je suis très fan de Glory to the Filmmaker, un peu, parce que ça va un peu. Je l'assume totalement. Il y a ce côté.
Dans Symbole, par exemple, on retrouve pas mal cet humour très manga. Mais enfin, après, ça a continué, parce que par exemple, GTO.
C'est carrément
la continuité
c'est carrément un héros comme ça.
Du collège foufoufou, enfin,
c'est le héros un peu droit, charismatique, mais en même temps qui est un gros loser, un gros pervers.
Une fraction de seconde. Puis on parlait tout à l'heure aussi de sexualité. Il faut reconnaître que dans Ranma la demi, il y avait quand même des fesses. Il n'y avait pas beaucoup de censure dans Ranma 1/2.
En même temps, t'avais juste la confusion du genre avec le héros, mais il n'y avait pas de situation. C'était plus du lustre, c'était graveleux, mais c'était de l'humour. Quoi.
C'était le moment de séduire, y compris dans Dragon Ball d'ailleurs. Au début, c'est souvent l'humour qui est très sexué.
C'est
du comic de boulevard, mais transposé dans le manga, où t'avais plein de petits procos, des poursuites, des machins.
Et comme ça, avec tout ce qui touche à la transformation, la confusion homme-femme, on le retrouve un petit peu dans Dragon Ball. Également.
Surtout au début, enfin, surtout dans la première série. Sangoku, toujours tout nu. Puis il y avait un plan très marquant au tout début de la série où Sangoku découvre que Bulma est une fille en tapant sa culotte.
Non, il soulève sa jupe quand même avec son bâton, il soulève sa jupe, c'est qu'il a une cuillère. T'as Tortue Géniale aussi.
Où sont les boules?
Ah oui, Tortue Géniale.
Et Bulma pense qu'elle parle des boules de cristal. Donc voilà, d'où la
précision. Donc oui, il y a eu quand même pas mal de.
Et puis ça s'est poursuivi aussi avec la série que Canal Plus avait diffusée, la Excel Saga, je ne sais pas si vous en souvenez. C'était quand à l'époque ils avaient passé Full Metal Alchemist Monsters, il y avait une série entre tout ça,
qui
s'appelait Excel Saga, et c'est le truc le plus absurde, le plus. Ouais, tu veux, le truc complètement chiffonné, ça passait tous les soirs. C'était même devenu culte, hein, parce que apparemment le public avait pas mal adhéré, et dans le genre humour des bilouches qui part complètement en vrille. Des apartés absurdes, enfin c'était quand même assez barré, quoi. C'était excellent. Et c'était passé sur Canal à la même époque où ils avaient fait un effort d'avoir une tranche un peu d'animation le soir, à l'époque GTO, Monsters.
Puis t'as quand même maintenant des chaînes de télé qui existent sur ça, donc il y a J1, il y a No Life, hein, c'est quand même des. Enfin, il y a toute une culture qui a été créée par toutes ces années-là, qui font que maintenant des chaînes comme ça peuvent, alors après je sais pas si ça marche bien ou pas pour elles, mais en tout cas elles ont le mérite d'exister.
Ouais, mais le problème c'est que c'est des niches, alors qu'à notre époque c'était diffusé dans la continuité de n'importe quel autre programme.
C'est vrai que ça existe.
Après c'est vraiment des niches. Ouais, c'est
alors j'ai vu que France 4 avait acheté l'Attaque des Titans par exemple, on va peut-être le diffuser. Donc,
il passe Monster en ceci,
il passe Monster, donc il peut avoir une place sur l'animation dans les grandes chaînes françaises.
Enfin, ça reste France 4.
Ouais, c'est vrai qu'ils expérimentent beaucoup France 4.
Il y a quelqu'un qui est capable de donner le canal de France 4?
Oui, 14.
Non, d'accord.
Je vais dire 4, mais...
Voilà. Non mais ce que je veux dire c'est que
c'est une chaîne qui expérimente pas mal ou qui tente pas mal même niveau programme, donc c'est normal.
Mais je suis d'accord, mais ça reste France 4 et au final c'est sans doute la seule chaîne publique puisque c'est une chaîne publique qui soit capable de passer Shaolin Basket à 20h50.
Et d'ailleurs si on regarde, enfin j'ai pas d'enfant, mais si on regarde les programmes pour la jeunesse maintenant, c'est quoi comme série d'animation japonaise, s'il y en a, c'est quoi qui passe, quoi. Moi je sais qu'il y en a une, mais c'est les nouveaux Chevaliers du Zodiac, la suite.
Bah, t'as
toujours assez mauvaise
d'ailleurs. T'as toujours Pokémon, je pense.
Ah oui, bien sûr. T'as les nouveaux Chevaliers du Zodiac, la suite, qui est bien nul d'ailleurs.
Alors, mais je pense que les enfants.
Alors, c'est quoi les nouveaux Chevaliers du Zodiac là, qui passent sur des
c'est 17 la suite, c'est la,
ah, c'est
la suite. La suite directe de la première série.
D'accord.
C'est
Omega, non? Je sais pas, en fait.
Je pense
sincèrement.
C'est les nouveaux Chevaliers du Zodiac. Où les anciens apparaissent d'ailleurs, les Ikki et autres.
Je pense sincèrement que c'est l'une des séries les plus mal dessinées que j'ai jamais
vues. C'est horrible.
C'est dégueulasse. Hein. Mais vraiment, c'est limite un scandale de faire passer ça pour les Chevaliers du Zodiac, quoi.
Bah attends, parce qu'il y a le film qui arrive. Les premiers échos sont quand même très négatifs.
Il
est passé à Annecy.
Alors,
ça fait peur.
Ouais, alors dès le début, j'ai vu la bande-annonce. Et dès le début, j'avais annoncé que ça serait dégueulasse. Enfin, c'est une évidence. Enfin, tu vois le truc.
On va attendre de le voir quand même pour donner un.
Bah, surtout l'esthétique, ça n'a plus rien à voir. Ils ont fait du Final Fantasy. Ouais.
Bah, le chara-design, c'est le mec qui s'occupe des dessins de Final Fantasy Advent Children. Donc voilà.
Parce que là, tout le monde est androgyne.
Mais je pense qu'ils ont voulu surfer sur la vague. Ils ont vu qu'Albator, ça avait bien marché.
Ça gardait encore à peu près le trait de.
Mais si tu. Enfin, après, ça reste du business, quoi. Ils ont vu que ça a bien marché. Là, du coup, en 3D, c'est pas mal et tout. Et hop, on va faire la même chose avec les Chevaliers du Zodiac. Je pense que pour l'instant, pour Dragon Ball, on est un petit peu tranquille parce qu'ils ont essayé de le sortir en film. Ils ont vu que c'était pas très bien passé.
Il devrait y avoir une suite, normalement, à Dragon Ball. Hein. Donc, on verra ça. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une. Alors. Un revival, en tout cas une hype autour de toutes ces séries qui maintenant ont 20-30 ans. Autant dans les. Enfin, j'ai l'impression dans les médias, puisque. Bon,
d'ailleurs, en fin d'année, au Grand Rex, il y a un concert au Saint Seiya.
Voilà, il y a un concert au Saint Seiya, il y a un public qui est là. On écoute de la musique.
Était fabuleuse.
Ça va de Sébastien Tellier qui parle.
Un truc très lyrique.
Ça va de Sébastien Tellier qui parle des mystérieuses cités d'or dans son dernier album L'Adulte, à Kavinsky qui sample. Dans Rampage, une musique de Dragon Ball Z. Donc je pense qu'il y a quand même à la fois en France et dans le monde un mouvement qui remet au goût du jour toutes ces séries qui ont bercé notre enfance, et ça s'accompagne logiquement de reboots, de remakes.
Mais je pense que c'est comme tout, c'est les enfants qu'on était, maintenant on est des consommateurs, on est capable de payer 10€ pour une place de cinéma, ce genre de choses. Donc, je pense que c'est du business, c'est comme refaire des nouveaux Batman, c'est comme refaire des nouveaux Spider-Man, c'est comme ce genre de choses, c'est juste que c'est de plus en plus compliqué maintenant de rentabiliser un film parce que ça coûte de plus en plus cher, etc., etc. Et au même titre que les suites, en prenant quelque chose qui est ancré dans la mémoire des gens, il y a déjà, je sais pas combien de pourcents du boulot qui est déjà fait, mais en tout cas, il y a un pourcentage du boulot qui est déjà fait.
Y compris pour trouver des financements, d'ailleurs.
Non, mais c'est ça.
Je veux dire, si
tu dis, je vais faire un film sur un mec, ses parents sont morts, il est costumé, etc., etc.
Ça, c'est 90% des super-héros en même temps.
Ce que je veux dire, c'est que c'est toujours plus facile, je pense qu'au niveau du financement, c'est toujours plus facile de dire, je vais faire Albator en 3D, tu vas voir, c'est complètement dingue, parce que le budget quand même pour Albator était assez important, qu'une nouvelle franchise. et où tu vas devoir galérer pour ce genre de choses, quoi.
Et puis, compris, tu peux juste reprendre la marque, hein, voire un truc assez éloigné du concept. C'est plus facile de trouver des financements qu'avoir un concept proche de quelque chose qui existe déjà. Tout à fait.
Mais c'est aussi peut-être une incapacité à trouver, à créer un nouveau héros marquant aussi qu'on a un peu à notre époque, j'ai l'impression.
Je pense sincèrement que c'est une question de financement. C'est-à-dire que quand tu vois un film comme Pacific Rim, moi j'admire le budget qu'il a réussi à avoir pour faire ça, quoi.
Qui n'est pas extraordinaire non plus comme
et budget. Et il ne l'aura plus parce que ça n'a pas marché en même temps. Ouais. Enfin, Guillermo del Toro, c'est bien explosé.
Il est rentré dans
ses frais. Apparemment, il y a un 2 qui pourrait arriver. Ouais, mais
il est rentré dans ses frais, mondialement, au niveau du box-office. Mmh.
Bah après, ouais, j'ai l'impression qu'il y a aussi une incapacité comme à créer une nouvelle icône, un nouveau héros, parce que tout média confondu, le dernier héros... à mon grand personnage qu'on a eu un peu dans un gros film comme ça, je sais pas, ça remonte, c'est peut-être Jack Sparrow, à la rigueur, le dernier, c'est en héros quand même que tu reconnais au premier coup d'œil des 10-15 dernières années, quelle personnalité que tu reconnais, que tu identifies.
À la télé, il y a Jack Bauer, je reste là-dessus. Au cinéma, c'est vrai qu'on manque, il y a toute une vague de super-héros, donc on manque de.
Mais c'est de la reprise, une création.
Il y a eu des animés. Intéressant depuis.
Une création pure.
L'attaque des titans.
Pour les super-héros, tu te rends compte quand même que les X-Men ont quand même lancé le succès des X-Men et des Avengers plus récemment ont quand même lancé des projets qui n'auraient jamais existé. Ouais. On parle quand même de Ant-Man. On parle quand même de.
Guardians de la Galaxie qui arrive.
Mais voilà,
ça c'était vraiment improbable.
Mais voilà, donc c'est quand même. Donc c'est quand même des héros que. En tout cas, les fans de comics ne connaissent pas du tout. Et tu te rends compte que maintenant, ça marche. Que faire un Daredevil maintenant, ça marche. Et donc c'est. Ça peut marcher.
Pour les enfants, alors là on parle des gamins qui sont primaires ou au collège, est-ce que les films de super-héros ont complètement remplacé les personnages de dessins animés qui pouvaient être nos héros quand on était
clairement là, c'est, alors que bizarrement dans les années 80 peut-être que sans les mangas mais avec simplement les animés, je pense que les gamins s'identifiaient plus parce que c'était plus à l'adolescence peut-être qu'on commençait à lire du comics. Alors que là, l'identification, c'était plus sur les héros d'animation japonaise, carrément. Là, ça s'est inversé complètement avec les films qui sortent, les grosses sagas qui sortent.
En même temps, qu'est-ce qu'ils ont actuellement, les enfants? Moi, je ne suis pas du tout ce qu'il y a.
Mais les émissions de jeunesse, c'est...
Est-ce qu'ils ont des super-héros dans les dessins animés?
Oui, il y a des adaptations. Je sais pas du tout ce qu'ils ont.
Actuellement,
qu'est-ce qui se passe? Il y a quelques
adaptations de comics qui sont adaptées à un public plus jeune.
Mais après, tu te rends compte aussi que, au cinéma, ça marche parce que maintenant, c'est crédible, quoi. T'arrives visuellement, je l'avais déjà dit pour Pacific Rim, t'arrives visuellement à quelque chose de crédible. Enfin, tu te dis pas, quand on voit les premiers films de Superman ou encore plus vieux Spider-Man, c'est pas mal, mais au niveau des trucages, c'est une catastrophe.
Richard Donner, il se tient bien quand même.
Quand tu vois Superman qui court à côté du TGV, je suis désolé, je l'ai revu il y a pas longtemps, du TGV, du train grande vitesse, tu vois clairement que le truc c'est une poupée et ils sont un peu en galère. Donc maintenant c'est crédible. Enfin, tu vois le truc, tu dis pas, tu sais que c'est des effets spéciaux bien sûr, mais ça passe tout seul, quoi.
Comme le premier, le Richard Donner se tient quand même, se revoit encore bien. Puis t'as eu le Batman aussi de Tim Burton, t'as toutes ces deux gars.
Après, je sais pas dans quel, parce que j'ai pas l'impression que les jeunes lisent plus de comics que grâce au film de super-héros, alors que j'ai l'impression que. Alors pour nous,
oui, ça nous a amené vers le manga
en disant ça. Mais j'ai l'impression qu'on s'est intéressé au manga, à la culture japonaise, au cinéma qu'il pouvait y avoir à côté. C'est-à-dire que ça a été une ouverture d'esprit. J'ai pas l'impression qu'il y ait cette curiosité auprès du très grand public qui va voir.
C'est peut-être moins des paysans aussi, de toute façon, un film de super-héros avec l'environnement. Avec l'environnement de qu'on peut voir dans d'autres films ou séries américaines, malgré certains univers comme Thor qui sont vraiment autres, alors que le Japon c'était un ailleurs complet quand on regardait, on dit même au niveau des créatures et autres, les des créatures issues de la culture japonaise. C'était vraiment un ailleurs complet quand on était devant un dessin d'animé japonais, alors que bon, là, j'ai pas l'impression qu'il y a ce dépaysement complet non plus qu'on peut ressentir.
Bon, je dis pas forcément que c'était mieux avant, mais je dis juste aux jeunes qui peuvent nous écouter.
J'ai l'impression d'être un peu vieux.
Mais intéressez-vous aussi, on allant voir Thor, aux comics qui peut y avoir, aux comics de super-héros, ouais, voire à toutes ces séries dont on a parlé, qui peuvent être un peu rétro, un peu vintage, mais qui restent pour certaines passionnantes. Et justement, je pense qu'on va conclure là-dessus avec un petit tour de table. Si vous deviez garder une série d'animation. Donc Alex, je vais commencer par toi parce qu'on sait quelle série tu vas conseiller de ces années 80-90.
Ah, moi c'est City Hunter, sans aucune réflexion, parce que c'est la meilleure série qui a jamais été produite. Et voilà. Et je tiens à dire, je sais qu'autour de cette table, il y en a qui vont dire que c'est les Chevaliers du Zodiac.
Je plaide coupable d'avance.
Voilà. Et alors moi, de mon côté, en fait, c'est là aussi, tu vois, qu'il peut y avoir une certaine différence. Enfin, on n'aime pas forcément tous la même chose. Et alors moi, de mon côté, les Chevaliers du Zodiac, c'est carrément un rejet. Ouais. Et je ne peux vraiment pas. Ouais. Je ne saurais pas te dire pourquoi. C'est peut-être, j'aurais peut-être aller voir un psy pour ça ou quoi que ce soit, mais vraiment je trouve ça inintéressant, vraiment. Donc
bon, alors ce que je te propose, c'est de revoir les Chevaliers du Zodiac, et d'ici quelques mois, à l'occasion du film Saint Seiya, quand il sera on refait un podcast spécial, ouais, sur les Chevaliers du Zodiac,
pas ceux des 17, hein, on est d'accord,
ouais, bah
les, sur les vrais, des les Chevaliers vrais du Zodiac, et sur la première série de 219.
D'ailleurs, il sort en salle en France, le film?
Non.
Met...
non,
ils sortent, ils
ont sorti Albator, je pense qu'ils devraient tenter le coup.
On verra.
Même si ça peut-être piquer les yeux.
Mais la différence principale, enfin la différence majeure quand même, c'est que Albator, quand il a été diffusé, il a été acclamé. Enfin, clairement, personne n'a parlé de trahison ou quoi que ce soit.
Il est passé à Venise quand même.
Ouais. Non, c'est très bonne critique. Hein. Très bonne critique. Ouais. Et puis,
après, on en pense ce qu'on veut, mais même au niveau de l'ambiance, du trait, ça reste quand même dans l'esprit. Je vais dire du Zodiac.
Justin, quelle serait ta...
Alors moi, j'hésite entre deux. J'hésite entre Chevalier du Zodiac, évidemment, et Cobra. Mais bon, peut-être pour le qualitatif, vraiment, sur la continuité, serait peut-être Cobra, où la série était plus courte. Et puis vraiment, là, c'était le nec plus ultra de ce qu'on pouvait faire à l'époque. C'est vraiment le niveau animation, musique, niveau des histoires racontées. Enfin, ça tient complètement la route quand on revoit. Je recommande... aux lecteurs de vraiment revoir même la première série aujourd'hui, ça n'a pas pris une ride. C'était vraiment le meilleur de ce qu'on pouvait tirer à l'époque. Les histoires sont excellentes. Il y a le côté épique, tout est bien. Quoi, ça.
Entre parenthèses, c'est vrai qu'Alexandre Aja essaye de financer
ça fait quand même longtemps.
Justement, il n'y arrive pas.
Alors, ça fait quand même.
Ça fait 4-5 ans déjà.
Ça fait 4 ans, je pense. Hein, parce que moi, je pense, j'ai suivi vraiment les premières rumeurs. De ce film-là, et je pense que c'est un truc qui se fera jamais.
Ce qui est étrange, parce que l'influence, c'est complètement européen, quoi. C'est vraiment, c'est une ambiance, c'est un mix de Star Wars, de Buck Rogers, de plein d'autres choses.
Surtout
ça, ça pourrait tenir la route. Ouais. C'est pas typé japonais, quoi. Donc,
pas du tout, puisque c'est Jean-Paul Belmondo qui a inspiré tête de Cobra. Ouais.
Mais le problème, c'est un peu ça, c'est que j'ai l'impression que Cobra est plus populaire en France. Pratiquement, en tout cas qu'aux États-Unis.
Oui, c'est le problème. Aux États-Unis, ça n'a pas pris.
Le budget ne peut pas être bouclé avec des capitaux français.
Au Japon, il l'est encore.
C'est plus au niveau de la coproduction que
j'ai. Ouais, parce que le problème, c'est qu'on est capable de faire un Astérix, parce que aux Jeux Olympiques, par exemple, qui
ne raconte rien.
C'est un
balai qui coûte très cher. Non, mais voilà, qui coûte très très cher. Ou Astérix, et je sais pas, quand il va en Angleterre, là, je sais plus.
Celui-ci, oui, c'était encore pas trop mal.
Qui est aussi réussi que Astérix aux Jeux Olympiques. Et donc, comme quand on est capable de mobiliser. Enfin, mais après, c'est une question de risque financier aussi, parce que faut savoir que Cobra, je suis pas bien sûr, parce que Astérix, c'est un film quand même qui peut se vendre dans l'Europe entière, voire dans le monde entier, mais c'est surtout en Europe, en France forcément, mais aussi en Europe. Alors que Cobra, malheureusement, je suis pas sûr que ça touche. Oui.
Parce que c'est vrai qu'ils avaient pu faire Dragon Ball, mais bon, avec le résultat qu'on sait. Mais c'est vrai que Dragon Ball, c'est beaucoup plus populaire. Ouais.
Mais c'est très populaire aux États-Unis.
Voilà, oui, c'est ça le problème.
Enfin, et pas comment. Elvien, une série qui a marqué ta jeunesse.
Sailor Moon et ensuite Princesse Sarah. Je n'ai quasiment aucun souvenir de Sailor Moon, je dois l'avouer, en fait. Donc il faudra vraiment que je regarde à nouveau.
Pouvoir du prisme du nez.
Oui, voilà, je me rappelle de quelques grandes tirades qui revenaient souvent, mais j'ai pas de grands souvenirs, je sais juste que j'adorais.
Comment il s'appelait?
Je pense que je ne me suis pas menti à moi-même.
L'homme masqué, là, comment il s'appelait? C'était l'homme masqué?
C'est l'homme masqué.
Ben, c'est Ramon. Ouais. C'est l'homme masqué.
L'homme masqué. L'homme masqué.
Alors pour l'instant, moi, je les ai revus et j'en ai revu que deux. Donc il y a juste Sailor Moon et il y a pas encore ses copines.
Oui, il y a pas ses copines. Les premiers épisodes, il y a une dizaine d'épisodes où elle est toute seule et puis avant d'être rejointe par.
Ça me semble tellement loin.
Je me rappelle pas du tout.
Je garde un bon souvenir.
Et pour le coup, idem Sailor Moon, il y a un remake, une première saison de 26 épisodes qui, il me semble, la production est terminée et présentée. Ça a l'air d'être assez fidèle et les premiers dépôts sont plutôt bons. Sidi, ça serait quoi ta série?
Là, je suis presque frustré parce que j'ai l'impression d'avoir encore mille choses à dire sur les séries sacrifiées. Par exemple, il y avait les Chevaliers du Zodiac et puis il y avait les Samouraïs de l'Éternel dont plus personne ne se souvient. Il y avait Olivier Tom, mais je suis pas sûr que c'était japonais ça.
Rudy.
C'était japonais aussi. Enfin voilà, finalement, il y a certaines séries qui en ont bouffé d'autres, mais bon, peut-être que ça fera l'objet d'un
autre podcast. L'École des Champions.
L'École des Champions.
C'était français.
Mais j'avoue que j'aurais du mal à trancher parce que je crois que j'ai au moins 5 séries qui m'ont constitué. Quoi.
Alors, le si top 5 de
bah ouais, mon top 5, ça serait Olivier Tom parce que voilà, quoi, pour moi, le foot, ça restera ça. Ça restera la catapulte, ça restera des choses un peu spectaculaires. Voilà. Les Chevaliers de Zodiac, pour ces questions de voix particulières, pour ces questions de beauté, ces questions d'esthétique, plus que de violence. Le Collège Foufoufou. Pour la régression totalement décomplexée. Ranma un demi un peu pour les mêmes questions et pour la notion de genre, etc. Et puis en finale, on n'en a pas parlé, mais Max et compagnie,
ah oui,
qui était pour moi une série extrêmement classe, qui ressemblait étrangement à Juliette Je T'aime. Enfin, il y avait plein de choses. Enfin, je sais pas si c'est le même auteur.
Non, c'est pas le même.
Mais voilà quoi. Et si je dois vraiment trancher absolument. Eh ben, je vais trancher en faveur du Collège Foufoufou.
Voilà. Je suis en train de me demander Orange Road, c'est Rumiko Takahashi ou c'est Orange Road, oui. Je me souviens plus.
On vérifiera. alors, comme personne n'a cité. C'est bizarre que personne n'a cité Dragon Ball d'ailleurs, pour le coup. Qui pourtant a.
On a tous fini par décrocher un moment,
je crois. N'importe quelle série. Mais pour l'avoir revu, je citerai Saint Seiya, les Chevaliers du Zodiac, et particulièrement les 26 épisodes d'Asgard, qui sont magnifiques. Alors, vous direz Le Sanctuaire, donc les.
Qui nous a tous fait vibrer.
Et Asgard, qui est sublime.
Et peut-être, est-ce qu'il y a des séries, pour ceux qui suivent toujours un peu actuelles japonaises, qui poursuivent un peu l'esprit pour vous
De Saint Seiya?
Enfin, de cette époque, que ce soit en shoujo, en shonen
J'avoue justement que maintenant, j'arrive plus du tout à regarder de shonen, parce que ça m'ennuie. Enfin, c'est à peu près toujours la même chose, et très rapidement, tu comprends les ficelles. Donc, le dernier animé que j'ai essayé de regarder, c'était Tiger and Bunny. Enfin, j'ai regardé la première saison, enfin, l'intégralité disponible. Et ça m'a vraiment ennuyé, quoi. Donc, je suis quand même allé jusqu'au bout, mais.
Parce que moi, je conseillerais quand même les deux versions, d'ailleurs, vu qu'il y a eu deux séries produites à court terme. C'était Full Metal Alchemist, quand même, qui était une excellente série. Là, pour le coup, retrouve tout l'esprit découverte, épique, shonen. Donc, c'est l'histoire de deux frères dans un espèce de monde un peu variation steampunk, un peu qui cherchent un peu, qui ont fait une expérience d'alchimie, qui ont transformé leur corps et qui essaient de retrouver la bonne formule pour retrouver leur corps, qui parcourent le pays. Et puis, donc, c'est vraiment une excellente série. Il y a eu deux versions qui étaient adaptées d'un manga. Une première où le manga n'était pas terminé, où il y a une moitié de série qui n'est pas fidèle au manga vu qu'il n'était pas terminé, mais qui est très bonne aussi. Ils ont trouvé une nouvelle fin. Et une nouvelle série plus récente où là c'est totalement fidèle. Et il faut aussi retrouver un peu l'esprit de cette époque, des grandes séries un peu d'aventure. C'est quelque chose à voir, je pense.
Ah, au niveau Shonen, pardon, je finis là-dessus. Je conseille quand même Bakuman, qui est donc un manga à la base, mais il y a une adaptation animée qui se passe en fait dans le monde de l'édition de manga. C'est deux jeunes lycéens. Qui décide de percer, d'écrire des mangas. On retrouve à la fois complètement l'esprit des shonen, parce qu'il y a cette thématique du dépassement de soi. Ils entrent dans le monde professionnel, et en même temps, c'est une vue de l'intérieur du monde de l'édition, puisqu'ils commencent à publier une nouvelle, comment publier une nouvelle dans un magazine hebdomadaire, comment avoir sa série régulière, et la série évolue comme ça. On les suit, donc voilà.
Par le créateur de Death Note.
Exactement.
Est-ce que c'était un podcast nostalgique, finalement? Est-ce qu'on a fait le deuil de cette période-là, aujourd'hui, vous pensez, ou... Enfin, moi, je sais que je m'en sens loin, et en même temps, ça a été un vrai plaisir d'en parler. Je sais pas pour vous. Enfin, je...
Moi, non, parce que je continue à regarder quand même pas mal de choses en animation japonaise, donc je suis encore un peu dedans. Bon, pas autant qu'avant, mais je continue quand même à pas mal suivre un peu l'actualité, à regarder des choses. Quoi.
Moi, j'ai complètement arrêté l'animation japonaise.
J'en regarde en film, ça m'arrive, mais en série vraiment, c'est vraiment super super rare. Je me souviens qu'à une époque pas si lointaine, je regardais encore. J'étais capable. En fait, ça a été remplacé honnêtement par les séries américaines.
Pareil. Ouais.
Après, il n'y a pas eu de grandes séries qui sont apparues. C'est depuis 2-3 ans, le niveau a aussi un peu baissé au Japon.
Il est possible qu'il y ait plein de très bonnes séries et tout, mais je pense. Après, c'est une question de temps, quoi. Mon temps, mes journées de 24 heures ne sont pas extensibles. À l'époque où le soir, je regardais un nouvel animé qui était sorti, ce genre de choses. Maintenant, je regarde une série.
Parce que dans les années 2000, il y a eu une explosion des fansubs. C'était la folie furieuse pendant une bonne moitié des années 2000. Où il y avait pas mal d'amateurs. Vu que c'était la première fois que c'était dispo à ce point-là, les fansubs, même avant qu'il y ait les séries, tout ce qui était avant les séries américaines, tout ce qui était nouvelles séries d'animation japonaise. Entre 2000, 2005, 2006, il y a une espèce de... d'âge d'or où j'étais pas mal suivi aussi, mais bon, c'est retombé.
C'est vrai qu'en termes de série,
il y a la qualité qui a baissé, parce que là je parlais de Full Metal Alchemist, ça a déjà 3-4 ans quand même, pour la deuxième série. La première elle date de plus longtemps encore, vers je crois 2008 2007 2008, donc il n'y a pas eu de grosse série qui a débarqué récemment pour mobiliser tout le monde.
C'est vrai que je dois avouer que pour moi, limite c'est mort en même temps que le Club Dorothée. Enfin, c'est vrai que mon intérêt est mort, en tout cas, j'ai l'impression, en même temps que le Club Dorothée. C'est dommage, mais pour être retombé sur un ou deux épisodes de certaines de ces séries, j'ai plus du tout ressenti la même affection. Mais c'est vrai que cette Madeleine de Proust est tout à fait agréable. Voilà.
Bon, en tout cas, je pense qu'on aura l'occasion de poursuivre quand on fera ce podcast. Donc, le rendez-vous est pris, notamment avec Alex, pour parler des Chevaliers du Zodiac.
Une fois qu'il sera fini, toutes les saisons.
Et donc, d'autres animés. Merci de nous avoir suivis. Merci d'être présents. On va avoir une deuxième partie beaucoup plus rapide sur quelques conseils ou pas de films qui sont sortis ou qui vont sortir cet été. A tout de suite.
À cause de cet idiot, on a perdu du temps. Il va falloir qu'on le rattrape et que je retrouve Henri, Roger, Jean-Pierre et Marcel. Allez, dépêchez-vous un peu. En avant, toute la bande.
René, attends-moi.
<t'en>